le réseau Afrique Santé de la Voix de l'Amérique propose.
Votre santé, votre avenir.
Votre santé, votre avenir est exclusivement axé sur la lutte contre le sida en RDC.
Au micro, Khalil Gueye, votre santé et votre avenir commencent maintenant. D'après une étude du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, de plus en plus le VIH-Sida prend un visage féminin. En effet, le constat est que les femmes sont plus exposées que les hommes à l'infection pour des raisons sociales, culturelles et aussi pour des raisons physiologiques. Pourquoi le taux d'infection est-il plus élevé chez les femmes? Le même constat est fait en RDC. C'est pourquoi nous allons aborder ce sujet avec notre invité.
Le docteur Emerantienne Sindhi Matonga. Je travaille au programme national multisectoriel de lutte contre le VIH/SIDA au Congo en RDC. Je suis chargée du renforcement des capacités au département de planification au secrétariat exécutif. Je suis très heureuse de participer à cette émission. Votre santé, votre avenir.
Merci docteur Emerantienne. Bon retour dans notre studio. Nous aurons aussi nos auditeurs qui nous appelleront des différentes provinces. D'abord de Kisangani, Jolie Johanna.
Bonsoir à tous les auditeurs de VOA. Merci de m'avoir invité à cette émission.
Merci Jolie. Et gardez la ligne et nous irons aussi à Bukavu retrouver Descartes Outrongue.
Bonjour à tous les débatteurs et tous les intervenants. Je suis en ligne et je suis heureux de participer à cette émission.
Merci Descartes. Et nous écouterons aussi les reportages réalisés par nos correspondants sur la féminisation du VIH en RDC.
Au Sud-Kivu, les taux de contamination du VIH-Sida restent élevés chez les femmes que chez les hommes. Bukavu, Mitima de la Chance.
Et la pauvreté constitue un facteur majeur dans la féminisation du VIH-Sida. Ici Régine Kasongo à Lubumbashi.
La féminisation du VIH-Sida est une discrimination totale. Goma, Mustapha Kemal.
Docteur Emerantienne Sinzidi, y a-t-il d'autres causes de la féminisation du sida en RDC?
Je dirais que les causes de la féminisation du sida en RDC sont les mêmes que les causes dans le monde. Mais il faut aussi ajouter en RDC qu'il y a les conflits de guerre qui a fait les déplacements et pendant ces guerres ethniques qu'on a connues surtout au niveau de l'Est, avec les phénomènes de violence, de viols faits à la femme, à la jeune fille, ceci a encore accentué la contamination féminine du VIH chez la femme. En dehors des causes culturelles, de causes que la femme est plus exposée que l'homme, physiologique des causes sociales, il y a des conflits, des guerres que la RDC a connues ces dernières années. Ça peut être parmi ces causes-là, parce qu'avec des viols que les femmes ont connus au niveau de l'Est, la jeune fille qui ne connaît pas encore les hommes, une jeune fille de 14 ans qui a été violée, une jeune fille de 18 ans qui a été violée par 4 ou 5 personnes, et cette femme qui a été violée, qui n'a pas été prise en charge très tôt et qui ne connaissait même pas son statut sérologique.
Merci docteur. Nous avons aussi la question de l'information sur le sida. Très souvent, les femmes et les filles sont mal informées des questions de sexualité. D'autre part, elles sont sur le plan social assez faibles pour s'opposer aux avances non désirées et pour insister surtout sur des relations sexuelles protégées. Qu'en dites-vous?
Ça, c'est vrai. Je vais vous dire, la RDC, c'est comme un grand continent, c'est un grand pays. Nous avons un sérieux problème de communication. avec l'inaccessibilité des coins très reculés. Où, par exemple, il y a des coins, des villages, où les gens n'ont pas l'accès à l'information. La fille ne va pas à l'école. La femme commence la vie sexuelle très tôt. Elle ne sait pas à quoi s'y tendre. Et il y a des coins où, dans ces pays, les préservatifs n'arrivent pas. Même le préservatif, ça doit arriver, mais l'information n'y arrive pas. Et cette jeune fille qui grandit dans cet environnement-là, comment voulez-vous qu'elle peut? Elle a 16 ans, elle a 13 ans, elle a 12 ans, elle a 12 ans, elle a 13 ans. Elle veut entrer dans la vie sexuelle parce qu'elle ne fait rien, elle n'étudie pas, elle ne va pas à l'école. La sexualité, dans d'autres coutumes, dans d'autres coins de notre pays, c'est un sujet tabou où la maman ne peut pas parler, se partager de la sexualité et de la transformation que la jeune fille est en train de subir dans son corps. Elle ne peut pas partager avec ça parce que c'est un tabou. Il y a encore des coins où on prend la jeune fille, on l'amène en mariage, on la prend pratiquement de force, elle n'a aucune information. Et cette jeune fille qui entre dans la vie sexuelle comme ça, elle est exposée à tout. Il y a des coins, je vous dirai par exemple, où il n'y a pas de route. Les gens peuvent faire 200 km à pied pour arriver dans un centre et descendre, 150 km à pied, 60 km à pied. Il n'y a pas de route. Il n'y a même pas de relais communautaire. Les filles qui sont là-bas, ils n'y vont même pas à l'école. Et comme je vous dis, la sexualité, dans d'autres coins chez nous, c'est un tabou, on est encore en Afrique. Elles ne sont pas informées. L'information ne circule pas. C'est vrai, ceux qui sont tout autour des zones urbanisées, ils peuvent avoir l'information, mais pas tout le monde. Je peux aller ici, même dans des coins un peu à 150 km de Kinshasa, vers la route de Bandundu, même vers la route du Bas-Congo. Vers Mbakana, par exemple, il y a la jeune fille qui est là, elle a 12 ans, mais elle sait, elle doit vendre la chikong tout au long de la route. Mais avant la chikong, il y a les routiers qui passent, qui peuvent la prendre. Et parce qu'elle ne vit que de ça, elle commence la prostitution très tôt. Elle n'a pas l'information, elle ne sait pas qu'on peut attraper le VIH pendant le premier rapport sexuel. Elle ne connaît même pas. Elle ne sait pas comment elle peut se protéger. Voilà un peu ce manque de communication, ce manque d'information et d'éducation sexuelle que la jeune fille congolaise n'a pas. C'est l'une des raisons aussi qui fait à ce que le taux de contamination chez la femme est élevé. En dehors de ça, il y a même les femmes ici qui sont dans des villes, mais qui vivent encore sous des restrictions, qui ne sont pas en contact avec les relais communautaires, avec les sensibilisateurs, avec les éducateurs populaires, ou ils connaissent, mais ils ne connaissent même pas, ou par ignorance. Il y a des coins avec le délestage, il n'y a pas de courant, ils ne suivent pas l'éducation. En dehors de ça, les préservatifs chez nous au Congo, ça ne pose pas tellement un problème, mais l'accessibilité à ce genre de préservatifs, ce n'est pas évident. Parce qu'il y a des petits marchands qui se trouvent avec les préservatifs, mais la jeune fille de 14-15 ans, qu'on l'appelle en route pour faire un cours rapide, mais elle n'a pas l'argent peut-être pour acheter. Quand on lui dit, tu veux sortir avec un homme, on te propose plus qu'un préservatif. Et avec préservatif, le taux est réduit. La jeune fille préfère aller avec un homme qui lui propose plus. Mais c'est sans préservatif. C'est-à-dire le manque d'information est très, très grave. C'est l'une des raisons qui fait que les VIH, chez nous, sont très féminisantes.
Merci beaucoup.
Pauvreté surajoute encore cette incidence.
Je vais aller à Kisangani, passer le micro à Jolie Johanna. Jolie, vous avez l'antenne.
Oui, merci Khalil. Je n'ai pas vraiment de questions à poser, mais j'ai quand même certaines contributions. Parce que chaque fois que nous passons ici, on revient toujours sur les problèmes concernant l'information. Je crois qu'ici aujourd'hui, le sida est féminisé en Afrique et plus particulièrement en RDC. C'est plus le problème d'information. Et l'ignorance fait à ce que beaucoup de garçons deviennent un peu plus malins et disent même à leurs copines, à leurs petites amies que non, voilà, si on utilise les préservatifs, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Et on ne peut pas sentir le même plaisir que si on le faisait sans préservatif. Ça, c'est d'abord de 1. Mais il y a aussi le fait que dans les zones de conflits armés ou de post-conflits, il y a les femmes représentent, comme les enfants représentent les groupes vulnérables. Les hommes peuvent se débrouiller, mais les femmes sont plus exposées. Parce qu'un seul homme, vous savez, peut prendre autant des femmes et les contacter toutes au même moment. Donc, je crois que la féminisation du sida en Afrique et plus particulièrement en RDC, c'est aussi le fait des conflits armés qui se trouvent ça et là, à l'est, tout comme au sud du pays. Voilà un peu la contribution que j'avais. Comme solution par rapport à la guerre, c'est vraiment une solution à grande échelle. Ce sont des choses qui doivent se passer au niveau tant national qu'international. Concernant l'information, les femmes ne suivent pas vraiment la radio. Quand on voit la plupart des fois ici chez nous, comme à Kisangani, lorsque vous voyez les femmes à la télé, c'est plus pour suivre les cinémas ou les théâtres ou les divertissements. L'information n'est pas vraiment à l'apanage des femmes. Mmh. Mais je crois que si on faisait des sketchs ou des petites fenêtres où on sensibilise les gens sur le sida, je crois que les femmes suivront un peu plus vite. Parce que vous savez, jusqu'à aujourd'hui, il y a des femmes qui croient, ou même des hommes qui croient que le sida, c'est toujours une maladie imaginaire, que ça touche que les autres. Mm-hmm. Voilà un peu ce que je voulais dire.
Merci, Jolie, pour cette contribution. Madame Sinzidi, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter rapidement avant qu'on passe à Bukavu?
Je dirais ce que Madame Jolie a dit est vrai. Ça, c'est vrai. Et un autre problème que nous connaissons, il y a surtout avec les jeunes filles actuellement à Kinshasa, les gens ne sont pas informés. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, au niveau des églises, la sensibilisation, les églises ils sont pas actifs dans le domaine du VIH. Ils sont pas tellement actifs. C'est vrai, ils demandent le test de prénuptial avant les mariages. Mais qu'est-ce que nous constatons? Il y a des gens, ils demandent les tests de mariage juste avant les mariages, la publication de bons à l'église. Mais vous allez comprendre que la jeune fille est déjà partie, elle a déjà connu l'homme avant même que le pasteur ou les prêtres demandent les tests prénuptiaux. Et alors, à ce moment-là, vous allez trouver que le garçon est déjà contaminé. La jeune fille ou le garçon est malade, la jeune fille elle est contaminée, ou la jeune fille est contaminée, le jeune garçon n'est pas contaminé, ils ont déjà consommé, ils ont déjà passé par l'acte sexuel avant même de passer les examens. Je pense que l'Église a un rôle à jouer, à dire aux gens, au sein de l'Église, on doit avoir des cellules éducatives, des pères éducateurs au niveau des églises, de demander aux jeunes. Vous pouvez dire aux jeunes, l'abstinence, c'est vrai, mais quelque part, l'air de que le VIH est là, leur donner la vraie information. C'est-à-dire leur parler comment on peut attraper le VIH, comment on peut éviter le VIH. C'est vrai, l'Église prend l'abstinence pour les jeunes. Mais ce n'est pas tous les jeunes qui ont le même entendement. Il y a des jeunes qui font le rapport sexuel avant même de venir, avant même de dire que non, nous allons nous marier. Mais ils font déjà ça. Raison pour laquelle ils tombent déjà malades. Mais non, quand vous allez demander pour célébrer le mariage, amener le test de prédiction, vous vous retrouvez devant un couple, la fille est malade, les garçons vous disent, mais on a déjà fait. Mais ils ont déjà fait quoi? Ils ont déjà fait les rapports sexuels avant même d'aller faire avant d'aller faire le test de dépistage. Ça, c'est un problème majeur aussi. C'est pour qu'on n'arrive pas à gérer.
Je vais passer la parole à Descartes. Descartes Ntongue à Bukavu.
Oui, effectivement, j'ai la première préoccupation à demander à notre co-débattrice. Est-ce que les dispositions physiologiques aussi ne favorisent pas cette féminisation du sida? Mais aussi, il y a l'autre aspect, peut-être il faut commencer déjà à réfléchir sur le phénomène de l'homosexualité qui est ce vent qui arrive avec l'Occident peut-être, ou bien avec les autres dynamiques. Mais personnellement, je pense que c'est un problème complexe qui a beaucoup de causes. Et ces causes-là s'entrechevêtent, ça se compénètre. Donc, il faut des solutions globales. Au niveau de la justice a un rôle à jouer. Combien de procès ont été organisés pour contamination par les VIH-SIDA? Voilà. Je pense que les statistiques, si jamais il y avait des recherches dans ce sens-là, on devait nous montrer que les statistiques étaient faibles. Donc la justice n'arrive pas à réprimer sévèrement ce qui donne les VIH-SIDA, ce qui transmet les VIH-SIDA de façon délibérée. Voilà, et surtout que les conflits armés, certains acteurs, certains groupes armés l'ont utilisé comme arme de guerre. Donc la question des violences sexuelles. Mmh. Mais aussi, souvent, il y a ces préjugés-là contre les chefs coutumiers, les autorités traditionnelles, qui sont des acteurs tellement importants pour lutter contre les VIH-SIDA et plus particulièrement la féminisation. Comme vous allez le constater dans certaines coutumes en RDC, il y a certains noms qui prédispose aux violences sexuelles, qui prédispose au mariage précoce. Et il n'y a que les autorités coutumières qui peuvent commencer à, qui peuvent déclencher cette lutte. Pour moi, je voudrais que le docteur puisse nous donner sa réflexion par rapport à la question, entre autres, des homosexuels et la question de la disposition physiologique.
Merci beaucoup, Descartes. Docteur.
Oui, c'est vrai. Ce que M. Descartes dit est tout à fait juste. Il y a la position physiologique de la femme qui expose la femme au VIH-SIDA. Ça, c'est vrai. Et une question encore, bon, pas une question, une réflexion ou une observation. Avec l'évolution de la science ou l'évolution technologique, actuellement à Kinshasa, vous allez trouver qu'il y a des pratiques sexuelles qu'on disait des pratiques sexuelles à haut risque, qui est très poussée. Et c'est l'une des raisons aussi, par exemple, la sodomisation, la sodomie, le partouze. Ce sont des pratiques sexuelles qu'on ne voyait pas à Kinshasa, mais même monnaie courante. C'est-à-dire quoi? On prend la femme par la voie anale et par la voie vaginale aussi. Et partout, c'est-à-dire, vous allez trouver un partenaire sexuel, un homme avec 3 ou 4 femmes au même moment, ou 2 hommes avec une seule femme au même moment. Et des pratiques sexuelles, par exemple, le cunnilingus, la fellation, des pratiques que nous appelons en science des pratiques à haut risque, qui est maintenant monnaie courante. Et sans oublier encore que il y a cette réflexion que monsieur, mon ami a dit, que les acteurs, les chefs coutumiers devraient être au centre, être des vrais sensibilisateurs. Parce qu'au Congo, je me souviens à l'époque, j'avais une mission vers l'Est, vers Bingu, là-bas, à la province orientale. On est parti former des prédicateurs. Qu'est-ce qu'on a constaté? Il y a un chef coutumier qui nous a dit, il y a des pratiques encore jusqu'à aujourd'hui qui sont encore monnaie courante. C'est-à-dire un chef coutumier qui quitte un village pour aller dans un autre village. Quand il arrive dans ce village-là la nuit, on va lui donner une jeune fille qui est vierge, qui ne connaît pas les hommes, qu'on appelle une couverture. Donc on utilise cette femme comme couverture pour passer la nuit avec ce chef coutumier. Et ce chef coutumier qui est déjà quelqu'un qui est un adulte, qui va passer la nuit avec cette jeune fille, s'il est séropositif, il va contaminer la petite fille. En dehors de cette jeune fille qu'il appelle couverture, il doit encore, s'il doit faire 4 villages, vous vous imaginez, il doit dormir avec 4 différentes filles vierges. Et ce sont des pratiques sexuelles qu'on doit bannir, qu'on doit, je pense, la RDC, les autorités, ils ont tout intérêt à former ces chefs coutumiers, tous les administrateurs du territoire à être des activistes du VIH. sida, des acteurs au centre. Ils doivent avoir l'information, communiquer l'information. Il y a d'autres pratiques, par exemple, à l'est et toujours, vers la région de Maniema, vers le Kivu là-bas. Il y a cette culture, par exemple, vous allez trouver qu'au niveau de CPN, la femme qui vient au CPN, elle est deuxième, troisième, parce que la polygamie est là, disons. Et elle vient au CPN, elle est séropositive. Quand vous demandez à cette femme de venir avec son mari, il va vous dire non, si jamais mon mari va me chasser, il va dire j'ai mon vaisseau comment j'étais. Il n'y a pas une communication franche entre l'homme qui cherche une femme, même s'il la prend deuxième, troisième épouse, co-épouse, mais l'information doit passer. Et l'homme a tout intérêt aussi de connaître son état sérologique, parce que il va épouser plusieurs femmes, il est au centre, c'est-à-dire il est le distributeur, il va prendre chez l'autre, il dépose chez l'autre, il prend chez la première, il dépose chez la deuxième, c'est la quatrième, c'est la cinquième. Ouais. Donc nous avons des pratiques sexuelles qui exposent la femme, nous avons nos cultures qui exposent la femme, nous avons nos coutumes qui exposent la femme, nous avons encore en dehors de ça des violences, harcèlement aujourd'hui, même à l'université, pour qu'une fille accède au point, il y a toujours cette violence faite à la femme qui est encore, je pense, au Congo, vous savez, la violence faite à la femme est vraiment au top. Il y a des femmes qui sont même violées au sein de leur lit conjugal. Vous comprenez un peu? Donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs raisons qui font que la femme aujourd'hui en RDC est exposée aux VIH. Et je pense que la prévalence que nous avons chez la femme enceinte est toujours élevée. C'est à 3,7 par rapport à la population générale, cette population générale qui n'arrive pas à faire le dépistage volontaire. Donc, le niveau de connaissance, même de la transmission du VIH-SIDA, dans la communauté, dans la population générale, ce niveau de connaissance a baissé parce que il y a des institutions. La Banque mondiale n'a plus, ça c'est pas un secret, n'a plus la RDC en matière du VIH-SIDA. Donc, on n'a plus de pères éducateurs. Donc, les activités ont sensiblement baissé. Sensiblement baissé.
Merci beaucoup. Docteur Ancien Sinzidi, rapidement, est-ce que vous pouvez parler un peu de l'homosexualité? Parce que c'est une question posée par Descartes aussi.
Ah oui. Effectivement, l'homosexualité contribue beaucoup au VIH-SIDA. Beaucoup. Il y a 3 ou 4 ans, en RDC, on ne voyait pas les taux des homosexuels comme actuellement. Actuellement, le taux des homosexuels a tellement pris de l'ampleur qu'on ne sait pas gérer ça. Il y a maintenant un vent nouveau, il y a un vent nouveau en RDC, et nous trouvons des homosexuels un peu partout, que ce soit dans la société, que ce soit au niveau des entreprises publiques, que ce soit au niveau des points culminants de la RDC, donc des points très chauds. Vous pouvez aller n'importe où en RDC, vous allez voir des homosexuels. Et nous savons que l'homosexualité, la voie anale d'un homme ou d'une femme n'est pas faite pour avoir des relations sexuelles. Et nous le savons que l'homosexualité, la sodomie, les relations par la voie anale, c'est une voie de contamination à 90%. À 90%. Et je pense que c'est l'une aussi de voies, de causes, qui fait que nous avons un taux élevé de personnes vivant avec le VIH dans notre pays. L'homosexualité est pour beaucoup. Ce n'est pas dans notre culture, mais c'est quelque chose que nous avons apprécié de l'Occident par la voie, comme je vous l'ai dit, par la voie à la technologie, par la propagation des films pornographiques, tout et tout. Et c'est vrai, mais il faut maintenant disponibiliser. Vous n'allez pas dire à quelqu'un, non, il ne faut pas aller là-bas. Moi, je pense que nous avons un grand rôle à jouer, à donner la vraie information. C'est vrai, vous voulez aller faire avoir des rapports sexuels par la voie anale, mais utilisez les préservatifs. Vous voulez faire la fellation chez une dame que vous ne connaissez pas, ou la jeune fille veut faire la fellation, il doit utiliser les préservatifs. On doit enfin faire un marketing social.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Vous suivez votre santé, votre avenir. Notre thème d'aujourd'hui, la féminisation du sida à RDC. Notre invité,
le docteur Emeranchène Sougou de Matonga. Je travaille au programme national multisecteur de lutte contre le sida au Congo à RDC. Je suis chargée du renforcement des capacités au département de planification au secrétariat exécutif du PNMLS du Chassa.
Au micro, Khalil Gay. Plusieurs facteurs sont à la base de la féminisation du VIH-Sida au Sud Kivu. C'est notamment des facteurs socio-économiques et culturels aggravés par les violences sexuelles. Voici notre correspondant sur place, Mitima de la Chance.
Selon les chargés d'appui au secteur et partenariat du PNMLS Sud Kivu, Richard Bahizire, c'est maintenant depuis plus d'une dizaine d'années que le taux de contamination du VIH-Sida est élevé chez les femmes. Il appelle ainsi à agir sur les causes.
Ça s'explique par plusieurs raisons. Il y a des raisons sociales, économiques, biologiques, mais aussi d'autres aspects liés aux violences sexuelles que la province connaît actuellement. En termes du volet socio-culturel, on peut citer l'héritage de veuves. Dans la plupart des sociétés, vous savez qu'on hérite plus de veuves que de veufs. C'est rare que l'on hérite un homme, mais à la mort d'un homme, on donne à la veuve un ou de nouveaux maris, sans se rassurer toutefois de leur statut sérologique. Il y a aussi cet accès limité à l'éducation. Les femmes n'ont pas suffisamment d'informations sur le VIH. Une grande dépendance de la femme vis-à-vis de l'homme sur le plan économique. Sur le plan biologique, l'appareil génital féminin qui est beaucoup plus ouvert et qui facilement peut attraper beaucoup d'infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH.
Et cet habitant, Jacques Chirimwami, qui venait d'ailleurs de quitter le territoire des Kabarets pour Bukavu, fuyant l'insécurité, estime que les violences sexuelles contribuent sensiblement à la féminisation du VIH-Sida.
Quand vous trouvez ce qu'il faut, la violence, ce sont toujours des hommes. Vous n'allez pas trouver des femmes partir violer les hommes. Et comprenez qu'un seul homme peut violer aujourd'hui et violer demain et le lendemain. J'ai vu des histoires pareilles à mes propres yeux, à la descente d'un terrain, moi, quand j'étais à Kabare. Vous trouvez un seul qui peut sillonner sur autant de femmes là où on partait se cacher dans les arbres.
Par ailleurs, ces deux garçons rencontrés dans un centre de dépistage volontaire en Gouba rappellent ceci.
Les deux sexes sont exposés au VIH.
L'homme et la femme sont exposés au VIH-Sida.
Un rapport du PNMLS Sud Kivu indique que le taux de prévalence du VIH-Sida est jusque-là de 2,7%. Bukavu, Mitima de la Chance, votre santé, votre avenir, la voix de l'Amérique.
Madame Sinzidi, que pensez-vous de ce reportage?
Je pense que ce que tous les amis ont dit est vrai. Et c'est un bon reportage. Ça doit nous mettre la puce à l'oreille pour faire encore un vrai plaidoyer et que cette émission réveille les consciences des jeunes gens, les consciences des jeunes filles, pour qu'ensemble, nous luttons contre le VIH-Sida, qui est une pandémie qui est en train de ravager la femme en RDC.
Merci docteur. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Je vais passer la parole rapidement à Julie Johanna. Julie.
Oui, merci Halil. Vraiment, je suis d'abord contente, je vous remercie de m'avoir invité à cette émission et j'encourage que cette émission continue. Et notre souhait serait que vous puissiez peut-être descendre aussi sur le terrain, voir ce qui se passe ici, comment est-ce que les gens entre en contact avec les informations sur le VIH-Sida. En tout cas, merci encore de m'avoir invité.
Merci, Jolie.
Je vous en prie.
Merci et bonne soirée à Kisangani, Jolie. Et je dis aussi au revoir à mon ami Descartes Ntongue. Descartes. Au revoir, Descartes.
Oui, au revoir. Au revoir, mais prochainement, on aimerait savoir la part dans le budget que les PNMLS utilisent et les gouvernements donnent combien, parce qu'il ne suffit pas seulement de créer un service comme le PNMLS, mais il faut aussi lui doter des moyens pour que la sensibilisation affecte plus les milieux ruraux que les villes et les chefs-lieux. Merci et au revoir.
Merci beaucoup. Merci, Descartes. Docteur Emeranchène Sinzidi, nous sommes à la fin de l'émission. Alors, quel est votre dernier mot?
Mon dernier mot, je dis à toutes les femmes de ne pas croiser les bras, de se lever et d'être activistes du VIH-Sida. Ensemble, nous allons bouter ce fléau qui est en train de nous minimiser, de nous affaiblir.
Merci beaucoup, docteur. Don't Technique Wayne Shorter. Réalisation Fatouma Kalala. Micro Khalil Gueye, au revoir.